Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchiel.
19h19 donc sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Hélène Pilichowski. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Marc-Olivier.
Avec le psychanalyste Gérard Miller. Bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Le dirigeant audiovisuel Xavier Couture. Bonsoir Xavier.
Bonsoir à tous.
Et le grand reporter au Figaro, comme dirait l'autre, Guillaume Perrault. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Marc-Olivier.
On ne sait si on est un grand écrivain 20 ans ou 30 ans après sa mort, sur le moment même, vous savez, la mode, les préjugés, les choses s'évanouissent très très vite, vous savez, très très vite. C'est incroyable à quel point un artiste peut être oublié après beaucoup de gloire.
Le grand modeste, donc, de Jean d'Ormesson sur son œuvre, donc. Jean d'Ormesson, personnage public et mondain. Est-il un grand écrivain, d'ailleurs? Quelle trace laissera-t-il à la postérité? Allez, il aurait aimé qu'on fasse ce débat si vite. Alors, on va le faire. Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret.
Bonsoir. Ouais, parce que j'en vois beaucoup ici qui font ce genre connaisseur de Jean d'Ormesson, alors qu'à mon avis, ils n'ont même pas écouté tous ces disques, écrit Jean Moundir. Plus sérieusement, quand Léa Salamé tweet, Jean d'Ormesson n'était donc pas immortel. Grande tristesse, Martine rétorque. Bien sûr que si, la sagesse, la bonté, le visage doux, l'authenticité de cet homme resteront toujours. Il restera immortel dans nos cœurs, dans nos bibliothèques et dans la culture française. Son travail sera toujours avec nous, confirme Pat. Adrien se fait poète, c'est le moment. On se surprend parfois à croire en l'immortalité prométhéenne, tant l'étincelle des mots de certains, dont Jean d'Ormesson était, brille d'une intelligence volée aux dieux en ce monde si bas. Ha ha ha, d'Ormesson, c'est l'écrivain préféré des Français qui l'ont vu seulement à la télé, tac, teignol. Son apport à la littérature, rien, ce n'est qu'un mondain, tant que le char. Ça se voyait un peu d'ailleurs au milieu de la Pléiade, ricane Eric. D'autres comme TJ lui ressortent la chanson de Jean Ferrat et lui reprochent les guerres coloniales qu'il a soutenues. Juan le traite de petit marquis, purement décoratif, Mediapart enchaîne. Il avait inventé la misogynie courtoise, la réaction carnassière toujours souriante, le mépris de classe complice, la méchanceté suavissime. Will réconcilie tout le monde en disant qu'à 92 ans en tout cas, il aura une vie riche et bien remplie, mission dûment accomplie. Nathalie glisse enfin que ce qui est immortel en tout cas, c'est ce formidable pays où l'actualité la plus importante d'un jour reste la mort d'un écrivain.
Gérard Miller, un grand écrivain est parti.
C'est d'abord, si on resitue l'ensemble du personnage, et je dirais que étant donné qu'il s'est amélioré avec le temps, et comme écrivain et comme être humain, quand il était plus jeune, et quand je l'étais donc encore plus que lui, je trouvais que c'était un épouvantable réactionnaire. Et puis au fur et à mesure, c'est pas toujours le cas pour les gens qui vieillissent, il s'est bonifié, je dirais, et comme être humain, parce qu'il était de plus en plus sympathique, de plus en plus drôle, et sans doute comme écrivain. Moi, j'ai eu plaisir à lire quelques-uns de ses livres, et j'ai eu encore plus de plaisir à l'entendre parler. C'est-à-dire que moi, qui ne suis pas forcément sensible à la postérité, ni la mienne, qui sera nulle, ni celle des autres, qui n'est pas très intéressante non plus. Je trouve qu'il faut parler de ce qu'il a représenté ces derniers temps, ces dernières années, c'est-à-dire plutôt un type qu'on avait plaisir et à lire et à connaître. Je trouve que c'est encourageant pour ceux qui vivent vieux, ce qui aujourd'hui devient le cas quand même de beaucoup de gens.
Il s'est rattrapé sur le tard, quoi.
Il s'est rattrapé sur le tard, mais y compris comme écrivain.
Oui, moi j'ai trouvé que les hommages qui lui sont rendus, c'est assez normal. Il a été statué de son vivant, cet homme. C'est l'écrivain français publié dans la Pléiade de son vivant, avec tout ce que cela comporte. Donc, alors, bien sûr qu'il va rester pour la postérité, parce qu'il a été écrivain, il a été éditorialiste, journaliste, il a été un homme politique, il a pris des positions extrêmement controversées. Alors après, on peut lui reprocher un certain nombre de positions qui étaient considérées comme étant trop de droite par les gens de gauche, même s'il a eu pas mal d'amitié à gauche aussi. Il se trouve que moi, j'ai lu quelques livres de Jean d'Ormesson, et au risque de me faire étriller par ses adorateurs, il y en a certains que j'ai trouvé meilleurs que d'autres. Moi, c'est vrai que j'ai découvert...
Donc d'autres moins bons que d'autres aussi. Donc
voilà. J'ai trouvé que Au plaisir de Dieu était un livre qui m'a ravi. Je dirais que l'un des derniers que j'ai lu, qui est Je dirais malgré tout que Cette vie fut belle est un livre extrêmement émouvant, extrêmement attachant, qui m'a, moi, vraiment, et avec une très belle langue, avec quelque chose d'un peu saint-simonien chez lui en même temps. C'est ce mélange entre Chateaubriand et Saint-Simon, moi, m'a touché beaucoup. Moi, j'ai lu, je me souviens, je m'étais à l'époque.
Tapez le mot que vous cherchez.
Le guide des égarés. Et honnêtement, le guide des égarés m'avait profondément ennuyé. Mais alors, encore une fois, c'était un déplaisir de lecteur, je n'avais qu'à pas le lire. Mais je voulais dire, comme tout auteur, il y a des choses qui sont magnifiques et des choses qui sont loin. Je terminerai juste en disant qu'il a cité lui-même Cocteau en disant à propos des académiciens, vous savez, Nous sommes immortels pour la durée de notre vie. Après, nous nous transformons en fauteuil. Et je trouve que, voilà, c'est une postérité aussi que de rester pour l'éternité un immortel du fauteuil.
Pour prolonger ce qui vient d'être dit, moi je me demande si le concert de louanges qu'on entend depuis ce matin, c'est pas davantage pour l'homme que pour l'écrivain. Parce que je pense, vous dites, ce qui a séduit, vous dites, il a été meilleur à la fin. Pourquoi ? Parce qu'il n'a cessé de parler de lui, il n'a cessé de s'exprimer, de dire quelle était sa vie, pourquoi il l'aimait, comment il la concevait. Et c'est ça qui nous plaît chez Jean d'Ormesson, plus que les livres. Moi j'en ai lu 3 ou 4, peut-être pas plus.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, c'était agréable, je me souviens avoir lu ça. Mais oui, regardez comme on danse, je me souviens être en bateau, lire ça. Ah, c'était plaisant quand on était en vacances, quand on était sur l'eau, c'était formidable, c'est vrai. Mais au moment où il y a une espèce de guerre des sexes, il faut quand même le dire, hein, qui apparaît depuis quelque temps, moi personnellement c'est comme ça que je le perçois un peu, j'aime pas tellement. Et lui, qui est-ce qui a dit que c'était un misogyne? C'est vous qui a dit que c'était un misogyne? Un misogyne, c'est quoi l'adjectif?
C'était le Benoît. De Mediapart, en effet, c'est la misogynie courtoise.
La misogynie courtoise.
Enfin, c'est quand même lui qui a fait rentrer Yourcenar à l'Académie française.
Absolument. Bon, alors comme misogyne, je ne vois pas où est la misogynie. Non, mais il fallait bien que Mediapart se distingue par quelque chose d'aimable et de courtois, justement, pour assassiner Jean d'Ormesson le jour de sa disparition. Eh bien non, c'est un homme qui aimait les femmes, et c'est un homme qui aimait les femmes comme les femmes aiment les hommes qui aiment les femmes. Voilà, c'est vrai. Mais si, c'est ça.
Ouais, je vois bien ce que vous dites. Non, mais je vois bien ce que vous dites, ouais.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est un homme qui aime les femmes,
l'aventure,
mais qui les magnifie.
Ça.
Comment ?
On soupçonne l'aventure entre vous deux.
Oh, bon, non, j'ai pas fait partie de la longue... Peut-être pourrais-je le regretter.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
J'ai dit tout bas, loin du micro. Ouais. Je l'ai dit loin du micro.
Mais on l'a entendu, Hélène.
Mais il a magnifié les femmes et tout au long de sa vie, de la manière dont il les aimait. C'était formidable. C'est ça que j'ai aimé.
Guillaume, vous avez l'air accablé par les réserves émises à droite et à gauche.
Ce qui m'accable, c'est quand j'entends des gens dire Jean d'Ormesson a eu des positions très controversées. Je ne vois pas en quoi elles étaient controversées.
Partout, c'est sûr.
Il avait des opinions de droite qui n'ont jamais changé. Tant que je puisse en juger par la lecture de ces très nombreuses chroniques au fil des décennies, tel il était jeune, tel il est resté jusqu'à la fin, avec une culture de droite assumée, simplement, le temps passant, il a fait partie, j'allais presque dire, du patrimoine national, parce que, en effet, l'ensemble de l'opinion a découvert son charme personnel. Il avait un charme exceptionnel. Il n'était pas prétentieux pour deux sous. Il s'effaçait pour vous mettre en valeur, hommes et femmes. Et avec lui, on se sentait relié à une tradition littéraire française qui est celle de l'art de la conversation. L'art de la conversation qui a brillé au début du 19e siècle dans les salons comme par exemple de Madame Récamier ou sous la Belle Époque. Il participait de cette tradition. Il était relié à cette tradition. C'est un élément qui explique sa popularité. Et l'autre, c'est que, bien sûr, ses livres étaient nourris de sa biographie familiale. Et que son histoire familiale exceptionnelle fait qu'il était lui-même relié à l'histoire de France, puisqu'il a eu un ancêtre qui a jugé Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, et qui d'ailleurs il a voté contre sa mise à mort, ce qui fait qu'il a été banni et il a été sanctionné, il s'est retrouvé en Bretagne. Donc évidemment, il a dû se séparer de Saint-Fargeau.
Comment ? Pas en Bretagne, mais peu importe.
À Quimper.
Ce qui était son génie.
Je parle du magistrat.
Le magistrat qui effectivement a été sanctionné par Colbert.
Vous évoquez la modestie de D'Ormesson, soyons sérieux. Ce qui était son génie, c'était la capacité qu'il avait de se flageller avant que vous ne le frappiez. C'est-à-dire que il était capable de s'envoyer les pires critiques pour éviter que vous-même vous lui en trouviez quelques-unes. Il avait vidé l'ensemble de la boutique et du coup on arrivait un peu embêté pour.
Mais l'autodérision convenait que c'est une qualité.
Non, mais absolument. Avec une élégance.
En cette époque où les prétentieux pullulent, ça fait du bien d'avoir un vrai modeste.
On vous sent amoureuse, Hélène.
Qui n'était jamais donneur de leçons.
Non, vous étiez un faux modeste et un grand malin.
Oui, bah oui.
C'est déjà pas mal.
Non.
Regardez, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Faux modeste, non. Vrai malin, non plus. Un tribunal pour les médias, on en débat dans un instant.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
19h31, deuxième sujet d'On refait le monde ce soir avec Gérard Miller, Hélène Pilichewski, Xavier Couture et Guillaume Perrault. Entre les médias et Jean-Luc Mélenchon, c'est Je t'aime moi non plus depuis plusieurs années. C'est surtout moi non plus d'ailleurs. Oui. Mais après son passage dans l'émission politique de France 2, le leader des Insoumis a lancé une pétition pour instaurer un conseil de déontologie du journalisme. Il veut un tribunal professionnel des médias pour sanctionner symboliquement les menteurs, les tricheurs, les enfumeurs. je le cite. Alors, un tribunal des médias, vous approuvez ou pas sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Ça rassure ou ça effraie, au choix. En exigeant un tribunal des médias et des journalistes, Mélenchon se stalinise et se décrédibilise, accuse Christophe. Jean-Charles lâche même qu'il y a un moment où même les proches ne peuvent plus contenir la paranoïa d'un patient. L'hospitalisation d'office s'impose alors. Jean-Philippe leur répond que Mélenchon est dans une apparente parano. Sa théorie du complot des médias est très réfléchie. C'est juste pour concurrencer le lepénisme, dit-il. Mélenchon ou pas, moi ça me dérangerait pas si ça permet de s'assurer du professionnalisme des journalistes, écrit que pour. Pas un tribunal, mais comme en Belgique, un conseil de déontologie journalistique. Ah, parce que ça existe en Belgique, c'est une bonne chose, ricane Ryan. La Belgique est 9e dans le classement mondial de la liberté de la presse. La France, 39e. CQFD, rétorque Doux qui enchaîne. Si vouloir une presse libre et juste, c'est être paranoïaque et dangereux, je ne vous suis plus trop. Oui, il est dans un objectif de neutralité, assure Gwendal. Depuis quand les journalistes doivent-ils être neutres ? Je les souhaite pertinents, préfère François. Après le tribunal des journalistes, pourquoi pas un comité de l'info ? Puis on relancerait la Pravda, exagère Mathieu. Mais enfin, on veut juste vérifier que personne ne ment sciemment aux Français, explique Michael. Oui, arrêtez votre corporatisme, les journalistes. On dirait les députés qui refusent le contrôle de leurs notes de frais, se moque Lambda. Il y a un conseil de presse en Suède, rappelle Bastien. Et au Québec, c'est même un tribunal symbolique avec condamnation publique. Mais chez nous, on dirait que certains journalistes veulent la liberté sans la responsabilité.
Allez, Gérard Miller, on va commencer par vous, parce que forcément, vous allez prendre un peu de distance avec cette espèce de délire proposé par Jean-Luc Mélenchon.
Écoutez vos propres termes avec humour, délire, et tout à l'heure, comment vous
avez lancé Mélenchon. Dans la voix.
Mais oui, je l'entends. Ouais. Et vous savez, ça m'amuse beaucoup quand les gens disent « Ah, Mélenchon en rajoute encore avec les médias ». Quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, ça me faisait penser à ce qu'on racontait à l'instant.
En tant que patient, en tant que thérapeute, je me souviens d'un patient qui
était arrivé à l'hôpital parce que tous les matins, grosso modo, il emmerdait ses voisins. Tous les matins, notamment, il marchait sur le pied d'un de ses voisins qui, chaque fois, protestait. Et lorsque cet homme a été finalement interné pour d'autres raisons d'ailleurs, il disait « J'avais un voisin qui se plaignait tout le temps. » S'il avait arrêté de marcher sur le pied de son voisin...
Donc c'est la faute des journalistes qui ont tellement maltraité Jean-Luc Mélenchon.
Ce qui m'amuse, c'est que si Mélenchon proteste beaucoup, c'est peut-être que de l'autre côté, il y a matière à ce qu'il proteste.
Bien sûr.
Son idée... Il faut quand même l'expliquer aux gens quand on parle de tribunal. Son idée est un peu l'idée qu'il y a en Belgique. Il y a justement pour ne pas aller devant les tribunaux, justement pour ne pas être stalinien, justement pour ne pas être dans la diffamation, pour ne pas réclamer des peines d'amende ou de prison, que sais-je. Il propose un comité déontologique qui fait que lorsque, par exemple, prenons l'exemple de France 2, qui fait non pas une erreur, comme ça a été dit, mais un véritable trucage digne pour le coup de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'on monte volontairement des paroles de Mélenchon pour lui faire dire le contraire de ce qu'il dit. Ça ne s'appelle pas une erreur, ça s'appelle un trucage. Lorsqu'il y a un trucage de cette nature-là, des erreurs, tout le monde peut en commettre. Vous, comme moi, nous en commettons souvent. Des trucages, c'est plus rare. Eh bien, il propose qu'il y ait un lieu...
Ça s'appelle le CSA, ce truc. Hein,
non, qui propose justement, c'est là que vous vous trompez. Ah, oui. Le CSA, d'abord, permettez-moi de vous le dire, il est nommé par...
Vous le faites un signalement, et puis derrière, il sanctionne quand il y a erreur.
Pas sur la déontologie, c'est là où vous connaissez mal. C'est là où il est nommé par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Et il ne s'occupe pas de déontologie, justement.
Il ne s'occupe pas vraiment de déontologie. Xavier Couture, qui est le mieux placé d'entre nous pour vous répondre.
Il s'occupe de déontologie.
Il ne s'occupe pas.
S'il y a une erreur manifeste commise par des journalistes qui peuvent être considérés comme faute faite contre la responsabilité éditoriale.
Le
CSA est saisi. D'ailleurs, CSA, à l'issue de l'émission, a fait état d'une centaine ou plus d'une centaine de saisines qui lui ont été adressées. Donc le CSA traite le sujet comme il traite tous les sujets.
Je termine juste sur ce qui se passe en Belgique, parce que j'ai regardé du coup, où il y a effectivement un comité d'une quarantaine de personnes, où il y a des journalistes, où il y a y compris de la société civile. Il y a un certain nombre de gens. C'est la moindre des choses que les journalistes puissent avoir le sentiment...
Enfin, on l'entend beaucoup non pas d'aller. Il a plus la cote. Voilà, moi, je peux vous dire.
Non.
Il a un problème,
c'est
Mélenchon.
C'est trop facile de dire ça. Prenez au sérieux, laissez quand même dire, même si c'est facile.
Il a pris son presse en otage pendant des mois et des mois, qui l'ont porté au nu parce qu'il était une sorte d'incarnation d'une opposition à Hollande, puis ensuite une opposition à Macron, qui était une opposition caricaturale. On l'a vu sur toutes les estrades, battant du pied, haranguant les foules. Il a jamais été... privé de traitement journalistique. Et puis, malheureux pour lui, sa cote baisse. Il a réussi à mobiliser quelques malheureux milliers sur le million qu'il attendait dans les rues à propos de la loi travail. Et maintenant, il va dans une émission de télévision. Il n'est pas obligé d'y aller. Il se comporte de manière franchement insultante pour les invités. Et vous me racontez ensuite qu'il faut faire un tribunal populaire pour les journalistes.
Mais personne ne parle de tribunal. Dire,
vous non, voyez, mais attendez, alors, on est tombé sur
vous,
la tête.
Vous blaguez en disant tribunal populaire.
Non, mais c'est quasiment ça. Quoi.
Ah, d'accord. Et
non,
parce que le tribunal populaire, c'est pas ce qui s'est
vous avez
passé
lu son
à France
blog, Gérard.
Moi, je vous dis.
Vous avez lu son
Dieu
blog.
Dieu sait,
il a mis en cause une journaliste de la rédaction de France 2 dans des conditions scandaleuses. Moi, je vous le dis.
Mais non, vous blaguez. C'est pas parce que vous augmentez votre voix que vous faites peur à quiconque. Léa Salamé, que j'aime beaucoup, a néanmoins été dans une émission où on présentait par exemple des Français.
Et alors,
des Français
communautaires,
non.
On peut lui faire ce reproche.
Attendez.
Pourquoi est-ce qu'il a écrit ça?
Quand dans l'émission de Léa, on présente des Français en disant des Français lambda, alors que ce sont des gens qui ont bien le droit d'être ou à la FNSEA ou d'avoir des positions ultralibérales, vous ne les présentez pas comme des Français lambda.
Vous me l'enlevez, ça peut poser la problématique. Ah, cette problématique, moi je la pose. Effectivement, le témoin lambda qui n'est pas un opposant, qui est un opposant affiché comme tel, exemple Castaner dans l'émission de Mélenchon, mais des représentants soi-disant de la vie ordinaire qui en fait peuvent s'avérer des militants, ça pose un problème dans ces émissions, je suis le premier à le dire.
Ah bah
maintenant que Mélenchon instrumentalise cette histoire pour faire la pub d'un machin invraisemblable parce que sa cote descend, je trouve ça scandaleux et je trouve que la mise en cause de Léa Salamé, moi, elle m'a révolté.
On l'aime, Léa Salamé, c'est pas ça la question.
C'est la question.
Non, mais moi, je suis d'accord pour dire que sa réaction est scandaleuse. Scandaleuse parce qu'excessive, parce que vraiment agressive, avec un vocabulaire absolument dément, qui va le desservir. Parce qu'on va dire, voyez comme il est, voyez qui il est, il ne supporte pas l'adversité, il est dictateur.
Mais il la supporte.
Ça, c'est pas bon pour lui. En revanche, en ce qui concerne l'émission, il faut quand même savoir que comment est-ce que l'émission est jugée bonne s'il y a un truc qui fait du buzz, s'il y a un truc extraordinaire.
Pour lui comme pour les autres.
Vous avez vu, elle l'a coincé, c'est formidable. Etc. Comment elle a gagné ses galons? J'admire beaucoup Léa Salamé. Elle a beaucoup de talent, elle connaît bien ses dossiers, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais quand même, comment elle avait gagné ses galons? Souvenez-vous, avec François Hollande, quand François Hollande lui a dit, avec Merkel, c'est à propos de Merkel, nous avons les mêmes positions sur...
Elle a dit,
sur,
vous plaisantez.
Et elle a répondu, oh, mais enfin, c'est une plaisanterie. Ah, et à ce moment-là,
elle
mon
pas
Dieu, qu'elle est géniale. Elle a piqué la place
de... prendre la carrière de tous les journalistes un par un, on trouvera des...
Non, non, mais grâce à ce culot, parce que ça s'appelle du culot, elle a piqué la place de Nathalie Saint-Cric, que j'adore. Nathalie Saint-Cric, elle était suffisamment piquante et suffisamment...
Elle est revenue dans l'émission, Nathalie Saint-Cric, comme vous l'avez vu. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a traitée de conne, d'ailleurs. Tellement elle est revenue.
Non, mais c'est vrai, il faut savoir...
Il a pensé tellement fort que tout le monde l'a entendu.
Et moi, je vais vous dire une chose, que l'histoire du tribunal, il y a beaucoup... L'histoire du tribunal contre les journalistes, il y a beaucoup de Français à qui ça va faire plaisir.
Ah bah ça, mais c'est sûr, mais ça s'appelle de la démagogie.
J'espère que je ne serai pas le seul à défendre Mélenchon ici. Donnons vite la parole à notre ami Perrault.
Et il va le faire après la publicité.
C'est la corporation la plus détestée des journalistes.
C'est ça qu'on appelle
la politique. Alors, qu'est-ce que je vous dis?
Un mélenchonien contre quatre. C'est ça qu'on appelle la démocratie, un mélenchonien contre quatre.
Mais en même temps, on vous a entendu autant que les quatre. Allez, que les trois autres, on revient.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et avec Gérard Miller, Hélène Pichevski, Xavier Couture et vous, Guillaume Perrault, ce tribunal pour les journalistes alors?
Les tribunaux pour juger les journalistes, ils existent déjà. Ça s'appelle la 17e chambre correctionnelle.
Ouais.
Moi, j'ai été attaqué plusieurs fois en diffamation par des gens qui n'étaient pas contents de mes papiers au cours de ma carrière. Je suis allé à chaque fois à l'audience. Les magistrats vous passent un savon. Ils apprécient toujours que vous affrontiez l'audience plutôt que d'envoyer uniquement votre avocat. Après, il y a eu un appel, ça a été en cours de cassation. Je vous passe les détails. Tout ça pour dire qu'il n'est pas vrai que les journalistes soient irresponsables. Si Jean-Luc Mélenchon considère qu'il a été diffamé, qu'il attaque les journalistes et la rédaction devant la 17e chambre correctionnelle. Mais qu'il ne se présente pas comme un caliméro victime d'un monde injuste, alors qu'en effet, c'est le l'as pour tirer parti des médias en toutes circonstances avec un art de la dialectique qu'il maîtrise parfaitement. Bon. Deuxième élément, taper sur les journalistes est à la mode et facile, puisqu'en effet, ils sont tellement détestés que si un homme politique proposait de les pendre, il serait applaudi.
Ça n'a pas tellement réussi à François Fillon, je vous rappelle, parce que c'était sa corde pour essayer de s'en sortir.
Oui,
lui qui a été pendu avec.
Il était, d'accord, mais il était fragilisé par d'autres.
Oui,
par
d'autres, son truc pour en sortir, c'était salaud de médias. Hein.
D'accord.
Okay. C'est vous qui jouez
pas
le numéro.
Non. C'est pas uniquement ça. C'est pas uniquement ça qui l'a tué. Il avait d'autres fragilités qui fait que l'argument en lui-même, d'ailleurs, qui méritait examen de l'instrumentalisation de la justice qu'il a avancée, n'a pas suffi à le sauver. Je ferme la parenthèse.
D'accord. Donc c'était assez démago de tirer sur les journalistes.
Beppe Grillo, en Italie, a fait la même chose. Rappelez-vous qu'il a construit une partie de sa popularité en réclamant des tribunaux pour juger les journalistes et il s'appuie sur les réseaux sociaux pour dire ça. Oui, oui, bien, absolument, Beppe Grillo, le mouvement 5 étoiles.
Le mot de tribunal comme s'il s'agissait d'un tribunal en justice.
Par ailleurs, si maintenant il s'agit de créer une espèce de conseil de l'ordre des journalistes, c'est assez piquant de voir Mélenchon.
Ancien
journaliste, je ne sais pas, vous me l'apprenez.
Qui a été. Il n'a pas marqué ça par.
Est-ce que je vous rappelle que les conseils de l'ordre ont été créés par Vichy? La plupart ont été généralisés par Vichy. C'est une des raisons qui explique. Mais pas du tout, c'est pas un sophisme, c'est un fait historique. Qui explique que ce type d'instance, quelque nom que vous lui donniez, a toujours été refusé par la profession depuis la Libération, de peur d'un contrôle extérieur. Alors on peut dire que c'est du à la profession. On peut considérer que c'est du corporatisme, comme dans toutes les. C'est vrai qu'il y a une part de corporatisme dans ce refus du regard extérieur. Mais il y a un regard extérieur très sérieux qui est la justice. En Angleterre, on peut discuter du montant des dommages et intérêts qui sont perçus par quelqu'un qui fait condamner un journal pour atteinte à la présomption d'innocence, par exemple. Ça, c'est un problème très sérieux. Les Anglais sont beaucoup plus stricts que nous sur le respect de la présomption d'innocence ou sur la diffamation. Ils attaquent les rédactions au tiroir caisse et du coup, ils obtiennent des résultats, un respect beaucoup plus rigoureux des règles de droit. Ça, on peut en parler. C'est vrai que c'est un vrai sujet.
Mais l'information circule moins, d'ailleurs.
Comment ?
Venant de la police ou de la justice.
Voilà. Mais franchement, que Mélenchon se présente en martyr et soutienne toute honte bue qu'il a à se plaindre des médias, fait sourire.
Bon, ça vous fait sourire. On peut pas. Moi, ce qui n'est pas juste dans ce que vous dites, indépendamment du fait que vous n'êtes pas Mélenchon, ce qui est votre droit, c'est qu'il ne parle justement pas d'une judiciarisation. Il évoque précisément.
Non, mais excusez-moi, mais c'est pas ce qu'a dit Guillaume Dufay.
Si, il a dit qu'il aille devant les tribunaux qui portent plainte en diffamation.
J'ai dit que la responsabilité pénale des journalistes existe.
Mais on ne parle pas de ça.
Il soutient que nous sommes irresponsables. C'est pas vrai.
Il explique que lorsqu'il y a un mensonge, lorsqu'il y a un trucage, lorsqu'il y a précisément ce qu'on disait tout à l'heure, on était d'accord que vous présentez des Français lambda qui ne sont pas des Français lambda, mais des ultralibéraux, il propose que ça ne se règle pas devant les juges, c'est ça qui me plaît dans sa proposition, que ça se règle au civil, que ça se règle avec des journalistes, et qu'on essaye de voir comment justement, lorsque un trucage, une erreur, un mensonge, ou quelque chose de ce genre, peut être traité sans qu'on aille devant les juges.
Alors,
Non, je vous assure que non.
Vous
êtes un homme de liberté. Mettre en cause cette liberté fondamentale qu'est la liberté éditoriale, avec ses erreurs, avec ses abus, avec ses difficultés.
Ces trucages, ça me gêne.
Ce qui me gêne par-dessus tout, c'est que d'une manière ou d'une autre, on crée une instance, quelle qu'elle soit, qui remette cette liberté absolue en cause. Mais vous savez, je ne suis pas corporatif, j'ai été journaliste.
Il y a une différence entre un éditorial et une erreur, surtout une erreur volontaire.
Bien sûr, je ne dis pas le contraire.
Ce qui s'appelle une erreur volontaire, c'est un trucage.
Il y a des organes de saisie, il y a même d'ailleurs... Au sein de France Télévisions, il y a des organes que l'on peut saisir et qui permettent ensuite de saisir le médiateur de France Télévisions. Tout est possible. Donc, honnêtement.
Et puis vous avez la pression des auditeurs, des téléspectateurs qui est de plus en plus forte.
Vous faites comme si on était dans un pays où la presse était indépendante. Elle ne l'est pas, malheureusement. Les journalistes sont indépendants. La presse est possédée, je le répète à chaque fois, par 9 milliardaires.
À France Télévisions, ce n'est pas le cas.
Je parle des 9 milliardaires.
Non, mais là, on parle d'une émission.
Je parle de la quasi-totalité de la presse. Et donc, effectivement, quand vous dites, les Français seraient trop contents si on disait mort aux journalistes. Certainement pas, parce qu'il ne faut certainement pas avoir de la haine contre les journalistes, mais ils savent effectivement que la presse n'est pas indépendante. Le journal dans
surtout
lequel vous
écrivez... Surtout quand on leur dit de façon aussi...
Le Figaro, on parlait de Jean d'Ormesson, est possédé par M. Dassault, qui vend des avions, qui est un milliardaire français, et qui a manifestement...
Mais quel rapport avec France 2 et l'émission qui a provoqué la colère de Mélenchon? Vous faites un salto arrière parce que votre argument sur France 2 est fragile.
Je ne peux pas laisser passer ça, parce que j'ai travaillé pendant quelques années pour une grande chaîne de télévision qui s'appelle TF1, appartenant à un groupe industriel dirigé par M. Bouygues. Je n'ai jamais eu l'ombre d'une intervention. Vous vous rendez compte? Demandez à Poivre s'il a jamais eu l'ombre d'une intervention. Ça n'existait pas.
Mais je connais bien cet argument. Demandez-vous pourquoi ces milliardaires ont investi dans la presse. C'est pour avoir un retour sur investissement idéologique. Et s'ils n'ont pas besoin d'appeler les journalistes, c'est parce qu'effectivement, l'essentiel du boulot qui leur convient est fait. Je suis désolé, vous m'obligez. vous le dire.
Non, parce qu'ils disent tous que c'est une illusion et que finalement ils se sont trompés dans
Ils se sont trompés. Moi, je veux dire que c'est des gens qui se trompent pas trop avec leur fric.
C'est vrai, j'ai cru que ça me donnerait du pouvoir.
Écoutez, moi, je vais on s'arrête là, après, s'il vous plaît, parce qu'on va parler d'un autre sujet. En un mot.
Je remarque une chose, c'est que quand on fait voter les rédactions de l'audiovisuel public à l'élection présidentielle, Mélenchon arrive très bien classé, ce qui suggère qu'il n'y a pas une animosité idéologique des journalistes de base de l'audiovisuel public à l'encontre de votre candidat qui est, paraît-il, persécuté.
Même dans le Figaro, il y a des gens qui votent Mélenchon.
C'est dingue. Ça m'a pas échappé. Un autre sujet, le SMIC trop élevé et inefficace.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Allez, avis de grand froid sur le SMIC. Un rapport, on vous l'a expliqué, d'un groupe d'experts censés conseiller le gouvernement propose l'abandon du coup de pouce au 1er janvier et la revalorisation automatique du salaire minimum. On vous a expliqué tout ça tout à l'heure. Ce soir, le gouvernement se dit attaché à une progression automatique. Tout travail doit être rémunéré par un salaire juste et décent. Faut-il geler le SMIC et tout changer, Guillaume Perrault?
Alors, comme vous l'avez dit, Marc-Olivier, il ne s'agit pas de supprimer le SMIC ou de faire un SMIC jaune. Il s'agit de ralentir sa progression. Mais peut-être qu'à terme, en effet, ça pourrait aboutir à une diminution relative du pouvoir d'achat correspondant à ce SMIC. Alors, quels sont les arguments des gens qui sont favorables à ça? Il y a le fait que, selon eux, le SMIC augmente plus vite que la productivité et qu'il y a un taux de chômage des travailleurs peu qualifiés extrêmement élevés liés à ça, ce qui explique toute la politique d'exonération des cotisations sociales qui est menée et qui ne réussit qu'imparfaitement à combler ce problème. Bon, ça, c'est un premier élément.
Et puis, il y a le côté qu'on a expliqué tout à l'heure, surenchère, si on augmente le SMIC, les gens qui ont plus d'argent, mécaniquement, les prix augmentent, et donc les prix sont de plus en plus chers.
Et puis, les gens soient de plus en plus pauvres pour qu'on ait de plus
en plus. Et puis, le tassement.
Mais non, c'est simplement, il y a un effet mécanique de ce qu'on explique, et donc, comme tout est de plus en plus cher, alors que si tout reste dans le même rapport, ça ne change rien pour le pouvoir d'achat, ça, c'est pas de plus en plus pauvre. Non, là-dessus, vous avez mal compris. Vous avez
plus cher pour l'économie. Il y a le problème du rapport. Le pouvoir d'achat lié au SMIC baisserait.
J'ai dit que le problème, il est là. Effectivement, est-ce qu'on fait un arbitrage entre... Il est là, le problème. Qu'est-ce qui est le plus social? Est-ce que c'est de maintenir le SMIC tel quel, avec sa bonne conscience, un bandouilleur, en disant « moi, je suis intransigeant sur les principes, et puis il y a le chômage que l'on connaît ?» Ou est-ce que on assouplit certaines modalités dans l'espoir, je ne vous garantis rien du tout, il y a tellement de variables à prendre en compte, mais dans l'espoir que le taux de chômage chronique que nous avons diminue.
Mmh. Hélène ?
Non, en fait, effectivement, les arguments qui sont avancés parfois sont difficiles à saisir. Quand on dit qu'on va arrêter d'augmenter le SMIC parce que c'est une incitation à la pauvreté, l'automaticité, effectivement, on ouvre des yeux étonnants. Mais il y a des arguments qui sont assez intéressants. Par exemple, quand ils disent que, en fait, l'automaticité du SMIC, c'est quoi? C'est une aumône. C'est rien du tout, un point. C'est rien. Vous savez, les gens qui vivent, c'est 1150 euros par mois net, quelque chose comme ça. Quand vous habitez à Paris, vous mourrez de faim ou presque. Donc, avec un seuil de pauvreté qui tourne autour de 900 euros selon les critères que l'on choisit.
Merci.
Donc, en fait, si vous voulez. Bon. Et quand ils disent qu'il y a d'autres. Parce qu'ils font des propositions. Parce que cette aumône qu'on donne de manière automatique et dont les politiques, du coup, se libèrent, si vous voulez, se détachent en disant, de temps en temps, ils donnent un coup de pouce au SMIC de temps en temps quand ils sont de gauche et tout ça. Mais non, ils disent, il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes pour les salariés eux-mêmes, comme ces primes pour l'emploi et autres choses qui sont données par l'État pour justement lutter contre les travailleurs pauvres. Ça, c'est très intéressant. Le SMIC, il ne faut pas brandir en disant, oh mon Dieu, le SMIC. Le SMIC, c'est une horreur, surtout quand les gens y restent. Et le petit point, l'automaticité, ça n'aboutit à rien.
Est-ce que vous voyez les uns les autres dans quelle société on commence à s'enfoncer? On est en train de nous expliquer que pour que les gens aient un peu de boulot et soient moins pauvres, il faut les licencier plus facilement. Pour qu'il y ait moins de pauvres, il faut que le SMIC ne soit pas protégé comme il l'est relativement aujourd'hui. On est dans un pays qui effectivement va vers quelque chose qui a un nom, les travailleurs pauvres. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne dis pas que le SMIC c'est merveilleux, mais n'empêche que je trouve que quand on gagne ce que n'importe qui autour de cette table gagne, on devrait fermer sa gueule sur la question du SMIC. Moi, je trouve indigne qu'on puisse évoquer simplement le SMIC sans dire que c'est insupportable de vivre avec cette somme-là. C'est
de
tout. Pour moi, c'est la question.
Travailler et de n'avoir que ça.
Et de n'avoir que ça en travaillant. Ça on sait ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre, dans ces pays effectivement qu'on nous présente comme des modèles. Les gens ont parfois deux boulots et vivent quand même dans leur bagnole parce qu'ils n'ont pas le quoi payer un logement. Donc arrêtez, protégeant le SMIC comme on pourrait protéger un petit peu plus les salariés.
Et une fois que vous êtes, et une fois Gérard que vous avez obtenu ce succès facile que vous venez de vous octroyer à vous-même,
j'ai moins honte.
Eh bien, vous avez moins honte, ça, j'en suis sûr. Ça, je ne doute pas que vous n'ayez pas honte. Et qu'est-ce que ça change au taux de chômage français qui est catastrophique? Voulez-vous me le dire? Rien. Mais vous êtes sûr.
Permettez-moi que ce taux de chômage, c'est pas moi, ni les amis que je peux avoir qui sont au pouvoir. Ce taux de chômage, il est provoqué par une société libérale
la certitude que vous semblez avoir d'être du côté de la morale. Je ne partage pas cette certitude.
En 45 secondes.
En 45 secondes, Gérard a fait un magnifique éditorial par l'émotion sur une situation économique qui est dramatique pour un certain nombre de gens qui vivent avec le SMIC. Dire ici, avec les salaires qui sont les nôtres, que le SMIC, c'est invivable, ben vous expliquerez ça aux gens qui n'ont que le RSA. Le SMIC, ils aimeraient bien l'avoir. Donc je pense qu'il faut être aussi digne par rapport à ceux qui atteignent à ce premier salaire. C'est pas une aumône. Je voudrais terminer là-dessus. C'est pas une aumône. Il y a un impact qui est lié à la moitié de l'augmentation de la vie des 20% les plus modestes, plus un indice sur... les salaires moyens d'un certain nombre, plus l'indice des prix. C'est 50% du revenu de moyen en France, le SMIC. C'est 25% aux États-Unis. C'est 40% en Allemagne. Il ne faut pas non plus dire qu'on vit dans un pays insupportable. On pose simplement la question d'un meilleur équilibre entre cette rémunération qui est certes insuffisante et sa revalorisation. C'est tout.
Merci à tous les quatre.